Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du Café sans filtre avec ton RH, le podcast sans tabou du monde du travail d'aujourd'hui. Dans cet épisode, je vous propose de plonger au cœur du débat brûlant du climat social en France, notamment après la réforme des retraites qui, vous le savez, est passée par un 49-3. Pour décrypter cette situation, concentrons-nous sur l'un des acteurs des négociations sociales en France, à savoir les syndicats. Ces organisations, présentes à tous les niveaux, agissent comme des sentinelles du monde du travail. Organisées en structure hiérarchique, des sections locales à la direction nationale, les syndicats mènent diverses actions pour défendre les intérêts des travailleurs. Ils négocient et représentent les salariés dans des instances telles que le CSE, Comité social et économique, et n'hésitent pas à organiser des manifestations et des grèves. Aujourd'hui, pour éclairer notre compréhension d'un paysage syndical complexe et vulnérable, nous accueillons une invitée spéciale, Christelle Bachelet. Femme, syndiquée depuis plus de 15 ans au sein de la CFDT, elle partagera avec nous son expérience, son point de vue sur la puissance actuelle des syndicats et nous dévoilera les coulisses de leur fonctionnement. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant des négociations, des stratégies de communication syndicale et à découvrir comment ces acteurs parviennent à instaurer un rapport de force avec la direction. Sans plus tarder, accueillons notre invitée, Christelle Bachelet. Merci Christelle d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ?
Oui, bien sûr. Déjà, merci à toi de m'avoir invitée, parce que je pense que c'est un vrai sujet en fait aujourd'hui, le syndicalisme, et que ça mérite qu'on en parle. Donc moi, je m'appelle Christelle Bachelet. Je travaille depuis plus de 30 ans dans la même entreprise. Donc on peut dire que
ça devient rare.
Ça devient rare. Donc voilà, alors, je suis chargée d'affaires et donc je vais voir des clients, je leur vends des choses, etc. Et c'est vrai que je suis un peu tombée, donc c'est dans le secteur bancaire, et je suis un petit peu tombée dedans, on va dire, par hasard. Voilà, je faisais un stage sur le plateau téléphonique, puis ils m'ont proposé un emploi. Et à l'époque, il y a 30 ans, les CDI, bon, comme maintenant, c'était un peu rare, c'était un peu recherché. À l'époque, on faisait toute notre carrière dans la même entreprise. Et donc, du coup, j'ai un peu sauté dessus, alors que ce n'était pas du tout une vocation ni une envie que j'avais. Donc, je suis tombée dedans. Il se trouve que c'est une entreprise qui est plutôt agréable. Enfin, voilà, on a des avantages, comme les grandes entreprises en ont, en fait, hein, oui. Avec justement un CSE, avec tout un tas de choses aussi, une vraie représentation salariale. Et donc, je suis restée dedans un peu par facilité, il faut dire les choses. Là, j'ai déménagé en province à Caen, ce qui me plaît beaucoup, mais le marché de l'emploi étant ce qu'il est en province, quand on a un bon boulot, c'est pas facile de le laisser.
Oui, c'est un vrai sujet, ça, d'ailleurs.
C'est un vrai sujet. Après, on a des enfants, on construit sa vie, et du coup, le métier, c'est quelque chose qui est un peu acquis, qu'on remet pas forcément en question. Du coup, je suis un peu tombée il y a 15 ans dans le syndicalisme. Ça m'a un peu donné un souffle d'air, hein, parce que justement, moi j'ai quand même plutôt des valeurs de gauche au départ.
D'accord.
Et donc le métier de la banque, on ne peut pas dire que c'était complètement en raccord avec mes valeurs. Et donc faire du syndicalisme, ça m'a quand même permis de remettre un petit peu du sens dans mon métier, que je n'avais plus forcément. En fait, j'ai un métier intéressant, j'aime ce que je fais. Mais il manque un peu de sens, un peu de valeur, parce que la banque, c'est quand même plutôt traditionnellement du capitalisme, la droite, l'argent. Voilà, c'était pas trop raccord. Et c'était une période de ma carrière aussi où je m'ennuyais, assez curieusement. Ce n'est pas arrivé si souvent que ça. Mais j'avais été un peu mise au placard, comme ça peut arriver dans les métiers. Hein. Alors après, on rebondit ou pas.
Bien sûr.
Et on a des moments plus calmes que d'autres sur une carrière, en fait. Hein. Ce n'est pas forcément négatif, d'ailleurs, en soi, ça arrive. C'est des petits incidents de parcours, on va dire. Et du coup, je m'ennuyais un peu. Il y avait le syndicalisme, ça redonnait du sens un peu à mon métier, à ma carrière. Et ça m'a permis de voir quelque chose de différent tout en restant dans mon entreprise.
D'accord. Et donc, on est venu te chercher. Comment la rencontre s'est passée ?
Ouais, plus ou moins, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu... Il y a un moment où on t'en parle et il y a des moments où tu es complètement étanche.
Oui.
Soit parce que tu n'as pas le temps, soit parce que tu n'as pas le temps. Et puis parce que tu ne vois pas trop ce que ça peut t'apporter. J'avais moi-même, à l'époque, une image pas très glorieuse des syndicats.
Ouais.
Et pas forcément au départ, même alors que j'ai des valeurs de gauche... Je les voyais un peu comme des empêcheurs de tourner en rond. J'avais subi vraiment la grève de 95 à Paris. J'étais enceinte. Je me tapais 4 heures pour aller travailler de transport.
Ouais.
Et à ce moment-là, je détestais les syndicats, en fait.
On a tous, je pense, cette sensation parfois face au syndicalisme. Moi, c'est un peu pareil. Pourtant, je viens d'un milieu ouvrier. Et, ouais. Et à la maison, ça tractait, ça rédigeait des communications. Et je trouvais que c'était parfois un peu... Ça allait très loin, mais c'est vrai qu'avec le temps, on bouge sur nos positions.
C'est ça. On bouge et puis c'est très... On va en parler beaucoup aujourd'hui, mais le gros problème aujourd'hui des syndicats, c'est effectivement leur image, je pense, et leur visibilité.
Merci Christelle, on a bien compris ta motivation, ton parcours syndical. Maintenant, j'aimerais qu'on parle le chiffre. Donc en 1959, 30% des salariés sont syndiqués. Aujourd'hui, ils sont seulement 10%, alors que beaucoup de salariés ont le sentiment que leurs droits reculent. Qu'est-ce que cela traduit selon toi ?
Bah, c'est un peu ce qu'on évoquait en début là, du podcast. C'est qu'en fait, les salariés ne se sentent plus forcément représentés par les syndicats, déjà. Aujourd'hui, les syndicats, c'est quelque chose d'un petit peu obscur, d'un petit peu opaque. On ne sait pas trop quels sont leurs rôles et leurs missions exactes. Ajoute à ça que les gens n'ont pas forcément envie de s'investir dedans. Ils ont toujours un peu peur. Je m'investis, est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences sur ma carrière ?
Oui.
Est-ce que derrière, je ne vais pas être pénalisée en fait, à m'investir ? Et j'ai envie de dire que ce sentiment, en plus, il est partagé aussi. C'est un peu ce que fait ressentir des fois la direction. Alors ça dépend des directions. Et ça, j'ai pu l'expérimenter depuis plus de 15 ans que je suis syndiquée. Ça a changé plusieurs fois de direction générale et même de ligne managériale. C'est très variable, en fait. Mais il y a toujours cette peur de « je me syndique, qu'est-ce qui va m'arriver ?»
Oui, voilà. Est-ce que c'est la peur de l'inconnu, les retombées qu'il pourrait y avoir sur...
En fait, les gens, ils font un calcul un peu rendement-risque, on va dire, en se disant « ok, ça ne va pas m'apporter grand-chose alors que je prends du risque. » Et ça ne va pas apporter grand-chose en général, pas qu'à moi. C'est fou, okay, ça sert à quoi les syndicats ?
Oui, aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils sont donc, moins forts qu'avant.
C'est ça. Et en fait, donc, c'est un peu comme un cercle vicieux, en fait, parce que du coup, plus ce sentiment augmente, moins les gens se syndiquent. Et moins les gens se syndiquent, moins les syndicats vont être puissants. Donc, c'est un vrai risque. Si les syndicats n'arrivent pas à remobiliser un petit peu les salariés, qu'à terme, ils disparaissent, ou en tout cas, ils soient de moins en moins puissants.
Oui, c'est vrai. Et j'aimerais faire une petite analyse parce qu'on a le sentiment que dans certains secteurs d'activité, les syndicats sont plus forts que d'autres. Toi, quel est ton avis par rapport à cette première analyse ?
Oui, c'est complètement vrai. Nous, dans la banque, les syndicats majoritaires, les syndicats même présents, c'est plutôt des syndicats comme la CFDT, à laquelle j'appartiens, ou la CFE-CGC, qui est un syndicat de cadre. Et on a peu de représentants au niveau CGT et FO, qui sont plutôt des syndicats qu'on va retrouver dans l'industrie, qui sont plutôt plus revendicatifs, pas forcément plus forts en termes de poids, enfin en tout cas de nombre d'adhérents en France, mais en tout cas ils sont très revendicatifs par rapport à leurs demandes, et ils ont plutôt touché des milieux ouvriers, des milieux industriels. Et l'ambiance n'est pas du tout la même, c'est-à-dire que dans la banque ou dans les grandes entreprises, les syndicats, c'est plus calme aussi parce que les conditions de travail sont plutôt en général un peu meilleures. On n'a pas de sujets, on a moins de sujets comme les accidents du travail, comme la pénibilité, ce genre de choses,
oui,
qui sont quand même des sujets, pour le coup, où il y a vraiment besoin de se mobiliser. Et donc, sur ces sujets-là, ça va être plus dans l'industrie qu'on va retrouver avec pas tout à fait les mêmes syndicats, pas tout à fait les mêmes revendications.
Oui, j'entends qu'en fait, ce qui est difficile, c'est de rassembler autour de revendications communes et de priorités.
C'est ça, tout à fait, quoi.
Bon, peut-être une piste pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont syndiqués, qui veulent peut-être rassembler les syndicats sur des sujets communs.
Alors moi, je sais pas toutes les solutions. Le problème qu'on a aussi, c'est que depuis les dernières années, on a vu comme les différentes lois qui ont été votées, qui ont contribué aussi à ce mouvement. C'est-à-dire que avant, les syndicats avaient plus de pouvoir. Petit à petit, les lois ont déconstruit un petit peu toutes les prérogatives des syndicats. Par exemple, avant, quand il y avait des informations consultation, c'est comme très, très fréquent pour tout un tas de sujets dans les entreprises, s'il n'y avait pas de rendu d'avis, alors c'était du CSE, mais c'est souvent les mêmes membres qui sont au syndicat et au CSE, s'il n'y avait pas de rendu d'avis, en fait, le projet ne se faisait pas. Il fallait que le CSE rende un avis. Voilà. Alors après, ça a changé. C'est-à-dire qu'il était présumé avoir rendu un avis négatif. Mais en fait, il y a eu toute une progression. Et aujourd'hui, l'infoconsulte existe toujours, mais qui a un avis positif, négatif ou pas d'avis, le projet se fait quand même.
Oui, c'est la même chose.
Donc en fait, ça ne sert plus à rien. Il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a eu des lois, comme la loi Rebsamen, qu'on fait un peu de mal. Alors c'est à chaque fois, c'est des petites choses en fait.
Oui, mais mises bout à bout.
C'est ça, on connaît tous l'image de la grenouille qu'on plonge dans une casserole d'eau froide et puis elle ne se rend pas compte que l'eau chaude. Et puis quand l'eau est bouillante, c'est trop tard et la grenouille est morte. C'est un peu ce qui s'est passé avec les syndicats. C'est-à-dire que petit à petit, on a retiré des prérogatives. Pareil, quand on a réformé, avant, on avait un comité d'entreprise. des délégués du personnel et un CHSCT.
Oui.
Là, maintenant, il n'y a plus qu'un CSE qui a toutes les missions. Ouais. C'est-à-dire que ça a réduit le nombre d'heures des adhérents, enfin des syndiqués, hein, pas des adhérents, pardon. Ça a réduit leur nombre d'heures et donc ils ont moins le temps. Et ça a l'air de rien parce qu'on se dit, peut-être ils avaient trop d'heures avant. Sauf que c'est compliqué de s'investir dans un syndicat quand on a son métier aussi à faire.
Bien sûr.
Voilà, donc c'est toutes ces petites choses. Donc en fait, moi je dirais que la responsabilité, elle est partagée entre effectivement les mesures qui ont été prises plus ou moins par le patronat, mais en tout cas par le gouvernement, on va dire plus ou moins poussées par le patronat, et puis les problèmes internes au syndicat qui n'ont pas réussi à se renouveler et puis à prendre des vagues telles que le numérique, etc. Et ces deux choses réunies font que on est qu'à 10% maintenant et que ça risque de baisser dans les années à venir. Voilà, c'est pas de la faute que des syndicats.
Oui.
C'est pas de la faute que non plus des lois, faut pas se leurrer. C'est un peu une conjonction des deux,
bien sûr,
qui fait que c'est compliqué.
Christelle, tu viens de nous expliquer que la situation actuelle des syndicats et une combinaison de causes qui mises bout à bout font qu'on est dans une situation inconfortable. J'aimerais comprendre déjà, pour bien situer les choses, comment est organisée une organisation syndicale comme la tienne ?
Eh bien justement, ça participe aussi à tout ça. C'est que moi-même, là maintenant, je connais bien notre organisation. Mais il m'a fallu un petit peu de temps, même quand je me suis syndiquée, pour comprendre comment ça fonctionnait. Parce que c'est très complexe. Parce qu'en fait, voilà, j'ai parlé de la CFDT, mais toutes les organisations syndicales sont organisées de la même façon. On a déjà la Confédération. La Confédération, c'est nationale, c'est un peu là où, où les décisions sont prises, y compris en termes de publication, enfin de tout un tas de choses, de ce qu'on veut pousser comme communication. Et après, derrière, la conf, qui est vraiment très centralisée, elle a des détachements à la fois par branche professionnelle et par région. Tu vas avoir, par exemple, la CFDT, on va avoir la branche banque assurance, on va avoir la branche industrie laitière, on va avoir la branche... on est vraiment par industrie, c'est assez fin, on rentre assez dans le détail.
Oui,
en fait,
c'est très segmenté.
C'est très segmenté, quoi. Et donc, les préoccupations de chaque branche ne vont pas être les mêmes que celles d'une autre branche, en fait.
Bien
donc,
sûr.
Chacune a ses préoccupations. Et après, en plus de cette segmentation qui est déjà assez quand même compliquée à gérer en soi, tu as en plus une autre segmentation par région. Tu vas avoir la CFDT à Basse-Normandie. Donc, et donc, ça veut dire que tu te retrouves avec des toutes petites cellules assez déconnectées en fait de la Confédération et qui doivent chacune vivre en fait.
Oui.
Et ça, c'est pas simple parce que déjà, ça veut dire que même en termes de budget, ça morcelle aussi. C'est-à-dire que chacun, en fait, quand tu adhères à un syndicat, tu payes une cotisation tous les mois qui est en fonction de ton salaire. Et cette cotisation, elle remonte aux fédérations. Alors en général, ça remonte à la région, mais ça peut remonter à ta fédération de branche. Et ça sert pour faire des formations, pour accompagner les gens, pour faire tout un tas de choses.
Bien sûr.
Mais ça peut être compliqué, si tu es à la fois en région et dans une branche, d'avoir suffisamment d'adhérents pour avoir une antenne assez forte pour justement proposer des formations, vraiment accompagner les gens sur le terrain. Ce que je trouve intéressant dans les syndicats, par exemple, c'est un rôle qui s'appelle le défenseur du salarié, qui sert en fait à accompagner les salariés qui sont dans des entreprises qui n'ont pas de syndicat, c'est-à-dire toutes les petites entreprises, toutes les petites entreprises de moins de 10 salariés. Il n'y a pas de syndicat.
Bien sûr.
Parce que là, c'est quand même, des fois, ça peut être un peu familial. Puis c'est très petit. Et donc là, il y a quand même vraiment un focus qui est mis. Si quelqu'un se syndique, là, pour le coup, je pense qu'il a vraiment peur de son avenir professionnel, disons les choses. Et là, c'est important que ces gens-là soient défendus aussi. Et donc, s'ils adhèrent, ils peuvent avoir accès à un défenseur du salarié.
D'accord.
Sauf qu'un défenseur du salarié, c'est quelqu'un qui travaille par ailleurs dans une entreprise, qui n'a pas forcément beaucoup d'heures syndicales. Et il va falloir lui donner une formation, lui donner un agrément. Ça peut être un peu fastidieux, un peu long, à la fois pour le syndicat et pour le salarié. Et du coup, le risque, c'est qu'on n'ait pas suffisamment de défenseurs du salarié pour derrière pouvoir aider les gens, tout simplement, ce qui est le rôle premier quand même du syndicat.
Oui, donc structurellement, il y a vraiment des axes d'amélioration qui pourraient faire en sorte que les syndicats soient plus forts et peut-être plus organisés dans les efforts qu'ils souhaitent mettre en place. Tu as mentionné quelque chose de très intéressant, et j'en profite pour rebondir, c'est qu'il y a plusieurs rôles possibles dans un syndicat. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns pour peut-être faire germer des vocations chez nos auditeurs ?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de rôles. Les syndicats font plein de choses. Il y a des choses qui sont complètement exogènes par rapport à l'entreprise, à l'entreprise dans laquelle le salarié travaille. Voilà, c'est justement de pouvoir être, par exemple, défenseur du salarié. On peut être aussi conseiller prud'homal.
D'accord.
Il faut savoir que au prud'homme, c'est pas des juges professionnels. C'est des juges qui proviennent des syndicats, donc patronaux et salariés, en fait, hein,
oui.
À parité. Et donc ça peut être vraiment intéressant d'être au prud'homme. Hein. C'est des vraies missions, c'est un vrai intérêt. Pour du coup, ça change un petit peu de métier, mais ça demande du temps aussi. Et après, il y a vraiment des missions qui sont liées à l'entreprise, où là, on va représenter les salariés de son entreprise. Et donc, c'est tout ce qui est négociation. Hein. Les négociations dans les entreprises, ça se fait avec les syndicats. Ça ne se fait pas avec le CSE. Hein. C'est vraiment les syndicats qui vont aller négocier avec la direction de l'entreprise. Donc, parce qu'on connaît tous un peu, c'est les NAO. Hein.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et donc, là, c'est là où quand même, on va essayer de négocier du salaire, mais pas que aussi, hein, des avantages, c'est pas des RTT, des prises en charge diverses sur plein de points qui vont faciliter en fait la vie des salariés ou améliorer leur rémunération. Enfin voilà, qui vont être vraiment sur des thématiques pour les salariés en fait, pour leur développement au sein de l'entreprise. Et j'ai envie de dire de façon un peu plus parce que malheureusement, enfin moi je trouve que c'est dommage, on voit un peu moins et que c'est pas forcément le cas en France, c'est plus le cas en Allemagne par exemple où les syndicats sont plus forts.
Bien sûr, oui.
Il y a quand même des entreprises et des pays où les syndicats en fait participent à la stratégie de l'entreprise. Donc c'est-à-dire que ça va être un partenaire du directeur. Le problème qu'on a dans certaines entreprises, et ça dépend vraiment du profil du dirigeant, c'est d'avoir l'impression que les syndicats c'est forcément une force contre la direction.
Oui.
Alors que c'est pas vrai, les syndicats, ça peut être aussi quelque chose, un partenariat avec la direction de l'entreprise, parce que on a quand même à cœur que l'entreprise fasse des résultats, que l'entreprise soit bénéficiaire, on a le même objectif. Alors peut-être pas pour la même finalité, nous on veut que l'entreprise fasse des résultats, pas forcément pour enrichir l'actionnaire, mais pour enrichir les salariés. Mais
bien
dans
sûr.
Tous les cas, il faut bien que l'entreprise fasse du résultat.
J'adore ton analyse, parce qu'effectivement, pour avoir travaillé en Allemagne, effectivement, les partenaires syndicaux, enfin, le mot qui est venu, c'est partenaire en fait. Oui. Je n'arrive pas à dire les syndicats tout simplement quand je parle de la relation que peuvent avoir ces acteurs en Allemagne. En France, on est beaucoup, beaucoup dans un rapport de force qui éloigne et c'est très dommage. C'est très dommage. Il y a quand même quelques entreprises en France qui ont une relation gagnant-gagnante avec les syndicats, mais ce n'est pas la majorité.
C'est ça, ça reste minoritaire et c'est pas la vision qu'en ont à la fois les gens et les directeurs d'entreprise en fait. C'est-à-dire que l'image un peu galvaudée qu'on a des syndicats, c'est qu'ils sont là pour faire grève pour leur salaire.
Ouais.
Bon, c'est pas que ça.
C'est plus facile. C'est plus facile de dire ça aussi.
Mais c'est un peu dommage. Hein.
Ouais,
et c'est dommage
clairement.
Pour les syndicats. Plus les syndicats vont diminuer, moins ils vont être représentatifs. Et bien plus c'est les entreprises elles-mêmes qui vont prendre des risques. Parce que le jour où ils auront plus de syndicats, ils auront plus personne avec qui négocier.
Oui.
Et là, quand il y aura un problème, ce sera beaucoup plus compliqué de le gérer en fin de compte.
La question que j'ai envie de te poser maintenant, Christelle, c'est qu'est-ce qu'il faut pour être un bon syndicaliste ?
Pour moi, pour être un bon syndicaliste, déjà, il faut quand même être un petit peu bienveillant. Alors, c'est un mot qui perd à la mode en ce moment.
Oui.
Mais pour le coup, je pense que ça s'applique bien aux syndicats. Et il ne faut pas oublier que c'était vraiment ça au départ, vraiment la genèse des syndicats, c'était d'aider les gens. Et ça a l'air bête, ça a l'air évident, mais moi, ce que j'ai constaté aussi quand je me suis syndiquée, c'est quand même il y a quand même des jeux de pouvoir au sein des syndicats, comme partout. C'est quand même majoritairement, on va dire les choses, hein, des hommes blancs de plus de 50 ans qui sont syndiqués.
Oui.
J'ai rien contre les hommes blancs de plus de 50 ans, mais ça manque un petit peu de parité.
Oui.
Il y a peu de femmes de représentées, même si des fois, il y en a qui sont à la tête des syndicats. Hein. Enfin, c'est le cas actuellement à la CFDT, par exemple, et à d'autres
oui.
syndicats. Mais derrière, en dessous, au niveau de la Confédération, ce n'est pas si évident. Moi, ça m'arrive d'aller à des réunions où je suis la seule femme. Je me dis, mais où sont les femmes ?
Ouais.
Et il n'y a pas beaucoup de jeunes, en fait. Donc, voilà. Et puis, il n'y a pas beaucoup aussi de gens issus de l'immigration, comme on dit. Enfin, alors que c'est quand même des gens qui constituent beaucoup de salariés, y compris des salariés pauvres, qui ont besoin d'être défendus et représentés.
Bien sûr.
Donc, faut de la bienveillance. Il faut vraiment travailler pour les autres et avoir envie d'une vraie une représentativité un peu plus juste. Voilà.
Ça, c'est un peu plus dur hein, de se dire je vais me mettre au service des autres.
C'est un peu plus dur. Ouais.
C'est plus dur, je le constate.
Ouais. Et quand tu es représentatif, du coup, même si tu défends toi, tu défends les autres. Alors que quand tu n'es pas représentatif, quand tu es uniquement un syndicat composé à 80% d'hommes blancs de plus de 50 ans, eh ben, tu vas plutôt défendre les intérêts des hommes
Bien
blancs
sûr.
De plus de 50 ans. Et c'est humain. C'est parce qu'en fait, tu n'as pas forcément de visibilité des intérêts des autres. Et donc, il faut vraiment aujourd'hui arriver à être un peu plus, peut-être élargir. Alors, c'est au niveau des recrutements, mais ce n'est pas facile parce que En fait, c'est un peu pareil, hein. C'est un cercle aussi. C'est que tu as tendance à recruter parmi les gens que tu côtoies, parmi les gens que tu connais. Et voilà, et moi, je vais être plus facilement avec des femmes blanches de plus de 50 ans que des, enfin, peut-être que des jeunes femmes de 25 ans. Et encore, j'essaye, mais enfin, tu vois, on a tendance effectivement à pas forcément faut faire cet effort hein, tout le temps d'aller vers les autres et de vouloir, en fait, c'est ça, être représentatif de toute l'entreprise. Et ça, c'est vraiment hyper important, quoi.
Bah, je pense que quand on arrivera à ça, le syndicalisme sera autre chose.
Alors, je suis d'accord. Et ce qui est vrai au niveau du syndicalisme, c'est vrai aussi au niveau du COMEX, des conseils d'administration, etc.
Tout à fait.
De toute façon, il faut qu'on soit multiculturel, il faut qu'on soit paritaire pour arriver effectivement à représenter tout le monde et à ce que chacun se sente complètement à l'aise et intégré dans l'entreprise.
Comment faites-vous pour recruter de nouveaux adhérents ?
Bon, on les paye, hein ?
Non, je rigole. Ah, moi, je veux.
Non, bah, c'est pas facile, hein, parce qu'encore une fois, déjà, les syndicats n'ont pas une bonne image.
Oui.
Donc ça, c'est compliqué. En plus, quand tu approches des gens, ils ont toujours un peu peur. Alors, la première chose, c'est « Ok, mais ça sert à quoi ?» Une fois que tu as répondu à cette question, bah, à te former, à avoir des infos, à, avoir, voilà, à contribuer, etc., c'est « Ok, mais je vais prendre un risque par rapport à ma carrière. » Bah non, pas forcément. Mais on ne peut pas dire non à tout prix, en fait.
Oui.
Parce qu'en fonction, effectivement, de la direction, du manager, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis après, c'est vrai, mais je n'ai pas le temps. Parce que c'est vrai que bah, les gens, ils sont pris dans leur métier, en fait.
Oui.
Ils n'ont pas forcément de temps pour s'investir.
Mm.
Ce qu'il faut, c'est les rassurer sur ces trois points en disant si les syndicats, c'est utile. Mais c'est vrai que c'est utile un peu à grande échelle. Il faut que les syndicats soient maintenus, en fait. Et chacun se dit, bah, moi, je suis juste une petite goutte d'eau. Bah oui, mais en fait, c'est à force d'en avoir plein qu'on fait des choses. Sur la partie manager et carrière, quand tu te syndiques, tu n'es pas obligé d'en parler à ton manager. C'est-à-dire que tu peux très bien être syndiqué sans être sur une liste pour être élu. Et dans ces cas, ton manager ne le sait pas. Il n'est pas obligé de le savoir.
Oui.
Tu as de la confidentialité. Il n'y a pas du tout obligation d'en parler à sa hiérarchie, en fait, si on ne se sent pas à l'aise ou si on se sent en risque par rapport à son métier. Donc ça, déjà, c'est quand même important que les gens le sachent. Voilà, ça peut être... ce n'est pas quelque chose qui est forcément publié. Et après, j'ai envie de dire, par rapport au temps, c'est pareil. C'est pas, tous les gens qui se syndiquent n'ont pas besoin de consacrer du temps, en fait, derrière. L'intérêt de se syndiquer, c'est que bah, si la section fonctionne bien au sein de l'entreprise, la personne va avoir des informations un peu, on va dire, en premier, quoi, en prime.
Ouais.
voilà, elle va savoir les choses un peu, elle va avoir accès à des formations, enfin, à tout un tas de choses. Mais elle n'est pas obligée, en fait, de participer à tout ça. Celle qui choisit le temps qu'elle veut consacrer à son engagement. Et elle peut très bien, une année, pas avoir de temps du tout et pas consacrer de temps du tout.
Oui.
Et puis l'année d'après, récupérer un peu de temps.
D'accord.
Parce que les enfants ont grandi, parce qu'elle a changé de boulot, pour tout un tas de raisons, en fait. Et donc, y consacrer un peu de temps ou pas. Et alors, on va se dire dans ces cas-là, mais si je fais rien, si j'ai pas le temps, c'est quoi l'intérêt de me syndiquer ? Bah, l'intérêt, c'est que plus il y a de syndicats, plus ils sont puissants, plus ils représentent une force de négociation avec la direction.
D'accord. Mais voilà. C'est exactement la question que j'allais te poser. Quel est l'intérêt au final ? D'accord, oui. Très bien. La question du nombre compte.
Bah oui, oui, bien sûr, parce
plus
que
on est nombreux,
plus le pourcentage est important, bah plus les syndicats vont être une force représentative au niveau national, en fait, pas que au niveau de l'entreprise.
Et quelles actions, selon toi, aujourd'hui, ont encore de l'impact ?
Bah, j'ai envie de dire que y a quand même, on voit quand même les syndicats aujourd'hui, ils sont un peu dans le... On les voit quand même encore. Ils, sont, ils font partie du paysage... Du paysage en France. On l'a vu effectivement avec la loi sur les retraites, où ils ont quand même mené pas mal de manifestations, pas mal de choses, et on a vu qu'ils étaient représentatifs des demandes des Français.
Oui.
Bon, ce qui est un peu frustrant, c'est que avec toutes les manifestations qu'il y a eu, ça n'a pas servi à grand-chose.
Mmh.
Donc ça, je pense que c'est pas... ça ne les a pas aidés non plus, parce qu'en fait, du coup, à quoi bon ? On se dit à quoi bon faire
exactement
la grève s'il ne se passe rien. Mais après, depuis la loi sur la retraite, on a eu la loi sur le partage de la valeur qui est arrivée.
Oui.
Et cette loi, c'est une vraie loi paritaire. Quand je dis paritaire, c'est qu'elle a été, enfin, elle vient d'un texte de l'ANI. L'ANI, c'est l'accord national interprofessionnel. Et c'est un accord qui a été signé à la fois par les organisations syndicales de salariés et patronales, et le MEDEF. Il n'y a que la CGT qui ne l'a pas signé. Mais ce n'est pas très grave. Enfin, ça peut avoir du sens qu'un syndicat puisse être à l'écart. Ça n'a pas empêché le passage de la loi. Et en tout cas, c'est une vraie loi paritaire, en tout cas, entre les patrons et les salariés. Donc ça, c'est quand même important de voir qu'il y a quand même des choses qui se font. Et bon, moi, en plus, je travaille dans le domaine de l'épargne salariale, donc le partage de la valeur, ça a du sens.
Bien sûr.
Et ça a du sens en soi, intrinsèquement. Oui, il faut mieux partager la valeur créée par l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est les salariés avant tout. Et effectivement, ça a du sens de redonner quelque chose, de la valeur au travail.
Mais je suis contente que tu aies partagé cette information parce qu'effectivement, la partie tract et manifestation a été très visible. Moi, quand j'allais prendre le métro et le train le matin, j'avais toujours une communication pour faire la route. Mais c'est vrai que bon, le résultat était décevant. Maintenant, j'ai l'impression que finalement, c'est plus au niveau législatif que les syndicats ont vraiment un poids, une stratégie différente qui leur permette d'être plus forts. Non, tu nuances?
Oui et non. Moi, je pense que tout est lié parce qu'en fait, cette fameuse Annie, elle était déjà passée au vote il y a un an, avant l'histoire sur les retraites, de la loi sur les retraites.
D'accord.
Et le MEDEF ne l'avait pas signée. Et le MEDEF, d'ailleurs, avait dit « Non, mais jamais on signera ». Et puis un an après, avec tout ce qui s'est passé sur les retraites, le MEDEF l'a signé.
D'accord.
Donc plus un syndicat va être puissant, plus derrière il va pouvoir effectivement agir sur peut-être plus de façon plus législative. Il y a la partie un peu, c'est comme un iceberg. Il y a la partie qu'on voit, et la partie qu'on voit, ça va être les manifestations, ça va être les tracts, ça va être tout ça. Puis derrière, ça permet d'un travail un peu plus de fond, en fait. Et plus on va pouvoir faire de bruit, en fait, plus derrière, ça permet en profondeur d'agir. Et puis d'avoir des vraies choses qui avancent.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est un peu long et un peu compliqué. Et il faut vraiment. Et malheureusement, c'est que les gens ne le voient pas, tout ça. Ils ne voient pas tout le dessous de l'iceberg, tout ce qui se passe. Et moi-même, avant de m'intéresser un peu au syndicat, avant d'être syndiqué, encore une fois, je n'avais pas une bonne image. Parce que, pendant un mois, on n'a pas pu aller bosser, ça a été casse-pied, pour rien. Parce que,
Et au final.
Je ne sais même plus pourquoi c'était, les lois de 95, je me demande, c'était pas déjà sur les retraites. Et voilà, et en fin de compte, il ne se passe pas grand-chose. Et juste, les gens sont gênés, sont embêtés, alors qu'on subit nous aussi. Et donc, on se dit, on râle. Et en fin de compte, il y a quand même tout un travail de fond qui est fait en sous-jacent. Il faudrait que les confédérations, elles engagent les chargés de com', quoi.
Oui.
Faites quelque chose, les gars.
Faites de la com', soyez plus sur les réseaux, mais avec un message qui soit accessible au plus grand nombre. C'est peut-être là.
C'est des podcasts comme le tien. Non, mais c'est vrai, en fait, parce qu'aujourd'hui, les podcasts, les réseaux sociaux, tout ça, c'est des choses qui n'ont pas été tellement pris par les syndicats.
Ouais.
Ils sont restés sur des modes de communication. Le tract, c'est bien les tracts, mais les gens, ils ne sont pas forcément, au moment où ils reçoivent le tract, ils n'ont pas forcément envie de le lire. Des fois, ils sont pressés, et ça finit dans la poubelle, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Alors que quand tu écoutes un podcast, c'est que tu as envie de l'écouter, c'est que tu es prêt à l'écouter,
c'est un choix.
Et donc, il faut vraiment, à mon avis, changer un peu de stratégie de communication et puis effectivement, changer la vision des gens. Alors, c'est pas facile, mais même la vision des entreprises, effectivement, revenir à un truc, à dire, OK, aujourd'hui, on est des partenaires, on n'est pas juste là pour vous embêter. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les entreprises, on entend parler de RSE à tout va, la RSE, dedans, quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, tu as aussi un volet gouvernance.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Et aspect social et sociétal.
Bien sûr.
Or, quand on parle de RSE en entreprise, ils te parlent d'écologie, ils te parlent de...
d'environnement, empreinte carbone,
c'est bien,
carbone,
je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important.
Bien
sûr. Mais il y a tout le volet social, sociétal et de gouvernance qui est très peu évoqué dans les entreprises, alors que ça fait partie intégrante de la RSE.
Tout à fait.
Et là, les syndicats, ils ont un rôle à jouer. D'ailleurs, les syndicats ne l'emparent pas non plus tellement forcément, en fait.
Oui, donc il y a vraiment un gros chantier à faire. En tout cas, tu me fais une belle transition parce que là, on a beaucoup parlé de l'état du syndicalisme en France. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un focus sur le syndicat en entreprise et te poser la question suivante d'entrée de jeu. Quelle relation entretiennent les syndicats, les RH et la direction en général?
J'ai envie de dire que c'est très variable d'une entreprise à l'autre. Ça, je le vois dans mon entreprise, mais aussi quand je vais en clientèle.
Oui.
Il y a des entreprises où le climat social va être très bon, effectivement, et du coup, ça va bien dialoguer. Et donc, je pense que c'est intéressant. Et puis, il y a des entreprises où le climat social n'est pas bon du tout. Et ça peut être, à mon avis, c'est les deux parties. Hein. On ne se bat pas contre soi-même.
En règle générale.
En règle générale. Et donc, des fois, il y a des positions que je ne comprends pas. Il y a des fois des syndicats qui vont agir pas dans l'intérêt des salariés. Alors, je crois que j'ai du mal à comprendre leur stratégie, tu vois. Et d'autres fois, où c'est la direction, effectivement, qui prend des décisions, qui ne vont pas dans l'intérêt des salariés. Donc, c'est un peu compliqué. C'est vraiment une question de personne aussi. Nous, on a vu, donc on a changé quand même plusieurs fois de direction générale. Et c'est vrai qu'en fonction de la direction générale, et souvent la ligne managériale, en dessous de la direction générale, soit va être plutôt bienveillante avec les syndicats, et le dialogue social va quand même plutôt être meilleur. soit ils vont avoir des fois une attitude un peu méprisante par rapport au syndicat. Et du coup, ça va être compliqué de parler avec eux. Donc les relations, je dirais que c'est variable d'une société à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Mais ça, pareil, plus un syndicat va avoir du poids dans l'entreprise, plus il va... Si une entreprise, tu as 60% des gens qui sont syndiqués, même si la direction générale, elle ne veut pas parler avec les syndicats, elle va être obligée de leur parler.
En fait.
Alors que tu es dans une entreprise qui n'a que 5% de syndiqués, si la direction générale n'a pas envie de parler aux syndicats, il ne se passera rien.
Ouais, ils n'ont pas de poids.
Ils n'ont pas de poids. Donc même au niveau de l'entreprise, en fait, la représentativité syndicale est importante pour se faire entendre.
Ouais, on revient à ce que tu disais tout à l'heure.
Oui.
Tout est lié.
Tout est lié.
Qu'est-ce que tu reprocherais au dialogue social français ? On l'a un peu évoqué tout à l'heure en disant qu'on était plutôt dans de la confrontation plutôt que de la construction, de la co-construction.
Ouais, c'est ça. Je reprocherais un peu la déconstruction qu'il y a eu effectivement du syndicalisme. Encore une fois, à mon avis, qui vient à la fois du gouvernement et des syndicats eux-mêmes. Mais effectivement, on se retrouve un petit peu... on voit que ça diminue. Et ça, je pense que c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Quel que soit ce qu'on pense des syndicats, je pense que c'est pas une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'à terme, on pourra plus dialoguer avec personne. La direction va se retrouver un peu comment on fait. Et ça, c'est un vrai souci, en fait. Hein. Et donc, il faudrait vraiment arriver à renouer avec le dialogue social. Et plus aussi que les directions écoutent un peu plus les syndicats. Alors, moi, je suis syndicat, donc peut-être que la direction, elle dirait que les syndicats écoutent plus la direction. Mais on est quand même, on voit bien, en France, dans les pays occidentaux en général, on est passé après-guerre à un système où on rémunérait plus le travail que le capital, à maintenant un système où on rémunère plus le capital que le travail. Les syndicats le disent. Mais c'est une réalité. Il suffit de regarder les chiffres et c'est vrai, quoi. Donc, il faudrait quand même qu'on se pose des vraies questions sociétales. Et là, ça va au-delà des syndicats, en fait, et de la direction. Mais sur notre modèle, sur quel modèle on veut transmettre, quel modèle on veut donner. Parce que aujourd'hui, on voit bien que les gens qui sont à l'usine, qui ont des travails précaires, ils ne s'y retrouvent pas, en fait, et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent plus notre modèle social, en fait.
Oui. Est-ce que tu as un exemple de l'impact du dialogue social dans les entreprises qui sont dans le dialogue, en fait ?
Nous, on voit, je ne vais pas trop citer d'entreprises, ça va être des clients, mais nous, on voit bien dans l'épargne salariale, où tu as des entreprises qui sont bien dans le dialogue, qui vont mettre en place des dispositifs, en fait, d'abondement, d'intéressement, qui vont aller utiliser ce que la loi propose, mais en allant au-delà des minimums. Et ça permet du coup de récompenser les salariés, en fait, et d'avoir effectivement un climat social, des gens qui se sentent mieux dans l'entreprise. Et inversement, on voit quand il n'y a pas de dialogue social, des fois, des choses qui sont des situations de blocage, en fait. Moi, je pense, je ne l'ai pas vérifié, je n'ai pas fait d'études, mais qu'effectivement, quand le dialogue social est meilleur, quand il y a des avantages pour les salariés, que l'entreprise se porte mieux.
Oui.
Je pense que c'est assez facile à comprendre qu'une entreprise, on se sent mal, on ne va pas y rester, on ne va pas être motivé, on ne va pas avoir envie en fait, de donner à l'entreprise. Quoi.
Bien sûr, on va donner le minimum.
On va donner le minimum.
Et on va être dans des situations que tous les RH qui sont dans ces entreprises connaissent, c'est-à-dire des salariés désengagés.
Oui.
Et c'est jamais bon, ça sent très mauvais.
C'est pour ça qu'en fait, les syndicats et la direction sont vraiment dans le même objectif de réussite de l'entreprise. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Les syndicats, ils sont pas là pour faire couler la boîte.
Bien sûr.
Pas du tout, en fait. Non, mais des fois, on a l'impression que c'est un peu...
Oui,
on
parce
manque
que...
des augmentations, oh là là. Non, enfin, faut aussi... Et des fois, on a des discours qui sont un peu... On voit bien que la direction, ils sont aussi restés sur des anciens schémas ou sur des idées un peu comme ça arrêtées.
Mais les idées reçues sont très fortes. Hein. C'est ça le souci parce que on a aussi des exemples d'entreprises qui ont été plantées par des syndicats qui avaient des revendications disproportionnées.
Oui.
Pour toi, quel est l'envers du décor pour quelqu'un qui est syndiqué en entreprise ?
L'envers du décor, c'est un peu de frustration déjà, parce qu'effectivement, on a quand même un peu l'impression des fois de servir à rien. Ce que je regrette aussi, et ce qu'on voit, qu'on n'a pas tellement parlé là, c'est des fois un peu la guéguerre interne entre les syndicats.
Ah, en fait, j'ai beaucoup hésité à faire un sujet là-dessus, mais le podcast, peut-être au prochain.
Oui, oui.
On pourra en discuter, ou si tu veux en dire deux mots.
On peut en dire juste effectivement deux mots, quoi. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est ce qu'on disait, les syndicats, c'est aussi des jeux de pouvoir, que ce soit à l'intérieur des syndicats ou entre syndicats, en fait. Et plutôt que de travailler pour les salariés, les syndicats, des fois, ils travaillent pour... être les meilleurs, avoir la meilleure revendication, avoir machin, etc. Et ça se tire un peu dans les pattes. Et ça, ça va pas dans le sens des salariés, ça va dans le sens de la direction. La direction, ouais. Si les syndicats, ils se battent entre eux,
ça les arrange.
Pendant ce temps-là, voilà. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, en fait. Et c'est un peu l'envers du décor. Effectivement, je trouve que ça manque un peu de... On n'est pas assez constructif, on n'est pas assez... Enfin, tu vois... Après, je te dis, c'est un peu les deux, parce que quand t'es force de proposition et puis que, bah, il se passe rien, bah, c'est vrai qu'il y a un moment où c'est assez décourageant, en fait. Mais voilà, c'est un peu... Il y a du travail. Tu te dis... Moi, je trouve que l'envers du décor, c'est se dire qu'on a des gros soucis de communication au niveau du syndicat. Et puis, je parle pas vraiment de l'entreprise, mais vraiment au niveau de la confédération, au niveau des régions. On n'est pas tellement soutenu dans les entreprises. C'est un peu chacun qui se débrouille comme il peut. Donc, si tu as une équipe sympa et motivée, ça se passe bien. Il suffit qu'il y ait avec la personne qui soit un peu moteur s'en aille. Et puis, le moteur, il s'effondre. Ouais. Et le syndicat va s'effondrer, en fait. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai aussi que... c'est donner de son temps, être syndiqué, quand même. Et on n'est pas tellement reconnu, même par les salariés. Oui. C'est-à-dire que des fois, tu te fais plus engueuler qu'autre chose. Alors que, attends, moi, je suis là pour te défendre. J'y consacre mon temps en plus de mon boulot. Et t'entends des trucs. Ouais, de toute façon, on est tous des feignants, les syndicats. Oui, enfin, on fait ça en plus de notre travail, quoi.
Bien sûr.
C'est pas à la place du travail. Enfin, donc, tu vois, t'as quand même ce manque de reconnaissance aussi. Tu vois, un peu où tu te dis, bon, bah, où tu te dis encore plus à quoi bon, quoi.
Donc, clairement, le témoignage que tu viens de nous partager, je l'ai entendu plusieurs fois.
Hein. Ouais, bah
trop de fois, en fait. C'est un peu dommage. On arrive bientôt à la fin du podcast. Oui. Christelle, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ?
Non, bah, je dirais qu'on a un peu fait le tour de la question, quoi. Je milite pour plus de syndiqués, mais aussi des syndiqués plus variés, plus de représentativité. Qu'on puisse effectivement porter des vraies valeurs de gouvernance, des valeurs sociétales, et qu'on s'inscrive dedans. J'ai vu trop souvent aussi dans des entreprises, des fois, des entreprises qui étaient moteurs justement pour faire des choses, et où c'est les syndicats, alors on se bat pour la RSE, pour machin, etc. Et puis le CSE propose un voyage à Dubaï.
Ah oui.
Et c'est pas la direction.
Bien sûr. Bien
bon,
sûr.
C'est des petites choses. Mais
non, mais c'est ce qui compte.
C'est, voilà. Des fois, on se dit que même en termes de valeur, c'est un peu, y aurait besoin de remettre un peu de sens dans tout ça, quoi.
D'accord. Mettre du sens dans les actions qui
exactement,
sont menées.
Quoi.
Est-ce que ça sera le mot de la fin ?
Bah écoute, pourquoi pas ?
Bah, il est très beau, je trouve, qu'il nous ramène à une réflexion plus globale sur le sens et son impact. Son engagement au travail. Et c'est un peu le travail qui porte la société française aujourd'hui. Donc, c'est un très beau message. Je te remercie.
Ok. Mais de rien. Merci à toi.
Je t'en prie. Si vous avez appris des choses et pensez que ce contenu peut aider, partagez l'épisode auprès de votre communauté et abonnez-vous à la newsletter pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous dis à très vite. Au revoir.